Les pires ratés de la chirurgie esthétique, les pires looks de chanteurs des années 80, les pires coupes de cheveux de footballeurs, c'est une de nos passions coupables et cruelles, consulter les clichés de désastres esthétiques, capillaires et modesques et puis ricaner comme des hyènes. Pourtant l'époque nous incite à raison à cesser de commenter le physique d'autrui, de ne pas soumettre l'apparence de personnes qui ne nous ont absolument rien demandé à notre validation. Mais c'est plus fort que moi, je suis accro aux photos de tatouages ratés. Vous les connaissez, ces tatouages avec des fautes de parties passées ou la tête de Céline Dion qui ressemble pas du tout à Céline Dion. Vous connaissez peut-être aussi l'histoire du mec qui s'est fait tatouer un long et profond proverbe indien et qui a découvert qu'il avait les ingrédients du poulet au curry sur le mollet. Avant, les mères dont les filles voulaient se faire tatouer un dauphin sur l'épaule leur opposaient un argument imparable. Alors demandez, c'est quoi la différence entre une fille et un dauphin ? On n'a jamais vu un dauphin avec une fille tatouée sur l'aileron. Mais ça, c'était avant. Alors comment expliquer la banalisation du tatouage ? Est-il devenu un simple bijou cutané ? Est-ce qu'on se tatoue aujourd'hui pour se raconter ou pour se la raconter ? On en parle jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dame sur France Inter.
Et autour de la table pour parler de tatouage, Loïc Gignoux, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes tatoueur, perceur, fondateur du studio Abraxas à Paris et vous êtes membre du SNAT. Le SNAT, c'est le syndicat national des artistes tatoueurs.
Tout à fait, je tatoue depuis 25 ans à Paris.
J'accueille également Gilles Wetsch, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche, président du conseil scientifique du CNRS et vous êtes l'auteur du dictionnaire du corps, la peau est un enjeu de société aux éditions du CNRS. Et puis avec nous au téléphone, Anne Dehé, bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez bien ?
Ouais, ouais, je vous entends très bien. Bonjour.
Alors vous êtes,
à tous.
Bonjour, vous êtes commissaire général de l'exposition Tatoueur Tatoué qui s'est tenue au musée du Quai Branly en 2015, qui a fait le tour du monde depuis. Prochaine escale, c'est à Taïwan, c'est ça ?
Oui, c'est ça, en septembre. On n'a pas encore fait le tour du monde. Hein. Mais c'est vrai que l'exposition est en tournée mondiale depuis sa clôture à Paris, en fait, en 2015.
Donc, aux États-Unis, Canada, combien de visiteurs en tout ?
Voilà. Sur Paris, on a eu presque 1 million de visiteurs.
Ah oui.
Et puis les autres chiffres ne sont pas forcément communiqués par les autres musées. Mais en tout cas, ils sont toujours très, 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 très contents de la fréquentation.
Mmh. Alors, Yann Bazir, maître de conférence en droit privé, nous rejoindra par téléphone en deuxième partie d'émission pour répondre à une question que je ne m'étais jamais vraiment posée. À qui appartient un tatouage ? Au tatoueur ou au tatoué, c'est vrai, après tout. Puis un petit point d'histoire, d'abord, pour commencer. À quand remontent les premiers tatouages, Gilles Boitch ? Est-ce que c'est de l'art primitif ? Est-ce qu'on sait qui et quoi ?
Alors le problème, c'est que il faut obtenir des échantillons de peau pour pouvoir le savoir, et ça c'est quand même relativement dur. Mais il est évident que le tatouage remonte depuis à très longtemps. Si on prend par exemple le cas des Pictes, qui étaient les ancêtres des Écossais actuels, qui avaient des tatouages sur le corps, qui étaient des tatouages bleus, mais c'était des populations qui ne vivaient pas sous un monothéisme avéré, parce qu'évidemment, les religions monothéistes vont interdire effectivement l'utilisation du corps pour inscrire des choses, le corps devant rester nu et pur, tel que le Créateur l'avait conçu.
Je disais en début d'émission qu'un Français sur cinq était ou avait été tatoué, en tout cas c'est ce que dit un sondage IFOP pour le journal La Croix, donc c'est beaucoup, on sait combien il y a de personnes tatouées en France. Est-ce qu'on sait combien il y a de tatoueurs, Loïc Gignoux ?
À peu près, au travers du syndicat, on pense qu'il y a entre, je dirais, 2500 et 3500 tatoueurs professionnels. Après, il y a aussi les tatoueurs amateurs.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être tatoueur amateur ?
Eh ben, on se procure des machines chinoises sur Internet, de l'encre un peu pourrie, et puis on se met à tatouer les copains dans le garage.
Après, c'est fréquent, ça, encore ?
Malheureusement, oui, il y en a encore beaucoup, et bon, ça emmène à souvent des problèmes esthétiques, ou voire pire, plus tard.
Parce que tatoueur, c'est un métier, ça s'est professionnalisé, pourtant.
Ça s'est professionnalisé, même si c'est un des plus vieux métiers du monde, du coup, historiquement, puisqu'on l'a retrouvé dans certaines populations, telles les Polynésiens, etc., où le tatoueur avait toujours une place et un statut. Nous, on a été tatoués en Europe jusqu'au Moyen-Âge, je crois. Les compagnons, tout ça, se tatouaient. Il y avait quand même une... Et après, bon, bah, il a été un peu banni. On l'a récupéré par le tatouage électrique, après-guerre, au travers des salons de tatou qui sont arrivés avec les camps américains, en fait.
Alors, je vous pose la question un peu naïvement, mais est-ce qu'il y a une école, une université du tatouage qui vous apprend des règles d'hygiène élémentaire, le dessin? Où est-ce qu'on se forme quand on veut devenir tatoueur?
Moi, je suis de la génération, j'ai appris il y a 25 ans, donc j'ai un monsieur qui a été mon maître d'apprentissage, qui m'a formé. C'est une formation qui n'est absolument reconnue par personne, si ce n'est par le book final et puis le travail effectué. À l'heure actuelle, il y a une ou deux écoles qui sont en train d'arriver sur le marché, qui répondent à un besoin. Plus qu'il y a peu de, parce que les gens qui sortent de là, au bout de 3 mois, on va pas devenir tatoueur en 3 mois, c'est pas possible. Il y a un stage obligatoire d'hygiène qui fait 3 jours, qui n'est pas validant pour l'instant. Donc il y a pas de question à la fin pour voir s'ils ont compris plus ou moins. C'est le syndicat à l'époque qui a pris des positions, qui voulait pas qu'on reparte vers un marché noir du tatouage et qui voulait que tous les professionnels puissent le passer et l'avoir. C'est fait. Maintenant, il faudrait peut-être que ce stage devienne un peu plus drastique. On a fini des travaux sur une norme AFNOR européenne qui va nous permettre normalement de pouvoir travailler avec ce stage d'hygiène dans d'autres pays européens et d'accueillir d'autres Européens dans notre pays également, ce qui est souvent le cas puisque le monde du tatou est pas bloqué par les frontières. On peut très bien, moi dans mon salon, j'ai des tatoueurs de partout dans le monde. Quand je vais n'importe où dans le monde, je peux tatouer également. Donc là, on essaie de le rendre plus légal parce que pour l'instant, les tatoueurs étrangers sont obligés de passer un stage qui raccourcit à une demi-journée, qui est souvent bâclé et qui a pas vraiment de... Donc voilà, c'est à peu près là où on en est. Pour ma part, je pense qu'apprendre le tatouage, ça prend plusieurs années, c'est pas en 3 mois que ça va se faire. Donc je reste plus enclin vers l'ancienne formule d'apprentissage. Mais après, c'est assez compliqué. Et on a même parlé à un moment de CAP de tatoueur. Ça a fait des gros scandales, ça a divisé toute la corporation en deux camps qui se sont affrontés. Alors qu'en Polynésie, il est plus facile d'être tatoueur. On peut même avoir un statut de tatoueur avec des charges sociales très basses qui permettent d'avoir... Donc là, ça a été repris dans cette partie-là de la France, parce qu'on est quand même en France. Et nous, en France métropolitaine, bah, le problème reste encore à débattre et c'est pas fini.
Gilles Bouet, ça vous semble tangible, ce chiffre d'un Français sur 5 qui est ou qui aurait été tatoué? Ça semble absolument énorme.
C'est possible, mais ça dépend qu'est-ce qu'on entend par tatoué. Quelle est la grandeur, par exemple, du tatouage? Est-ce que c'est un petit élément qu'on va mettre sur la peau ou est-ce que c'est l'ensemble du corps qui est tatoué? Donc déjà, il faudrait aussi introduire ce genre de distinguo. Alors, je vous parlais tout à l'heure du religieux et c'est quand même assez intéressant parce que, par exemple, les pèlerins qui partaient à Jérusalem avaient le droit d'avoir un petit tatouage pour montrer qu'ils avaient été voir le tombeau du Christ. Donc, il y a toujours des dérogations qui se font. Alors, je voudrais revenir sur un aspect un petit peu plus anthropologique, c'est que le tatouage, c'est pas quelque chose d'univoque et d'uniforme. C'est des choses culturelles et qui vont dépendre des sociétés. Quant au XVIIIe siècle, les Européens ont découvert la Polynésie. Ils ont découvert effectivement des corps tatoués. Ça les a beaucoup marqués. Ça leur a posé plein de questions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces sociétés, que ce soit là ou en Amérique du Sud ou ailleurs, le tatouage n'a pas du tout la dimension esthétique qu'elle peut avoir aujourd'hui en Occident. C'était un marqueur identitaire extrêmement fort. Parce que qu'est-ce qu'on racontait dans le tatouage? On racontait la vie de l'individu. Qui était son père? Qui était sa mère? D'où il venait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Est-ce qu'il avait tué des gens? Est-ce qu'il avait coupé des têtes? Enfin, etc., etc., etc. Donc, c'était ce que Claude Lévi-Strauss a expliqué. C'était la marque de la culture sur la nature. Parce qu'un corps dans ces sociétés où il n'y a rien, c'est un corps qui n'existe pas. C'est un corps qui n'a pas de sens. C'est un corps qui est déconnecté de sa culture, donc qui n'est pas humain.
Anne Dehaye, vous voulez réagir?
Oui, je voulais juste dire aux auditeurs en fait que la plus ancienne momie européenne qui a été retrouvée, qui s'appelle Ozi, date quand même d'il y a 3300 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Elle portait des marques qu'on imagine médicinales. Qu'ensuite le tatouage est strictement et formellement décrit par le fait d'introduire de l'encre sous la peau par le biais de différents outils. Donc le tatouage n'est pas contraint à sa taille, ni à sa forme, ni à son contenu, ni à qui contient en fait. Le tatouage, très strictement, c'est de l'encre glissée sous la peau.
Oui. On va voir que le tatouage, c'est plus du tout canaille, même si c'est plus du tout canaille, pardon. On écoute Voyou, les trois loupards.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre
cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée. Sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loup-bar? J'en sais rien, c'est le jeu. Je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets, ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant me venaient quelques réponses bien senties que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas racket un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loup-bar? J'en sais rien, c'est le jeu. Je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. J'ai pas resté sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas racket un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. J'ai sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, j'aurais filé ma monnaie.
Il est midi 18, vous êtes sur France Inter, le débat de midi est consacré au tatouage. L'émission est préparée par Caroline Pommès qui m'a confié cette semaine avoir failli se faire tatouer le mot pastis. Un jour à la technique aujourd'hui, Pierre Faucillon et Maxime Agrand.
C'est une connerie de jeunesse ces tatouages, hein. T'as pas au regret.
Non, ça ne m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas, vous n'aimez pas les tatouages?
Non, je trouve ça horrible.
J'en ai un très beau sur le nombril. Avec un cœur.
C'est en rapport avec mes sports que je fais, ski et surf.
C'est tous les événements importants de ma vie qui sont inscrits sur mon dos. Le premier, c'est il y a 12 ans, c'est la naissance de ma fille.
Aujourd'hui, Léandre a en tout 5 tatouages, les mêmes que Johnny.
J'ai le loup et la trappe rêve qu'il a fait aussi sur son bras. L'aigle qu'il a aussi sur le même endroit.
Sophia avait pris rendez-vous pour que Kevin se fasse recouvrir un tatouage qu'il avait fait pour son ex. Comment va-t-elle réagir en découvrant que Kevin ne l'a pas écouté?
L'année dernière, une petite soirée arrosée entre amis, ma copine ayant beaucoup bu, et moi aussi du coup, en voulant un peu se la raconter devant ses copines, elle a pris ma jambe et elle a pris le dermographe que j'ai à la maison et elle s'amusait à me faire un tatouage. C'est que le lendemain que j'ai réalisé la belle connerie qu'elle m'a fait sur la jambe.
Le petit zizi, mortel, avec les petites mains, j'adore.
Gilles Wetsch, est-ce qu'on peut dire qu'on consomme aujourd'hui le tatouage, qu'on consomme des vêtements ou des produits cosmétiques? Est-ce qu'on va chez un tatoueur comme on va chez le coiffeur?
Alors peut-être effectivement de plus en plus, mais déjà il y a deux types de tatouages. Il y a le tatouage qu'on va voir quand on est habillé, donc ça peut être sur le visage, sur les mains, etc. Et puis il y a beaucoup de tatouages qui ne sont que sur la partie cachée du corps et qui peuvent renvoyer aussi à des formes d'érotisme, etc. etc. Il n'empêche que ça pose des questions. Là, je vais demander à mon Emile.
Bah, Géo, tatoueur, ouais.
Est-ce que, par exemple, dans la société, quand on est en recherche d'emploi, est-ce que le fait d'être tatoué, d'avoir un tatouage visible, hein, j'entends, est-ce que c'est quelque chose de pénalisant?
Loïc Gignou.
Je pense que ça peut l'être sur certains métiers. Après, on a quand même maintenant, les policiers ont le droit d'être tatoués sur les avant-bras, etc. Mais moi, régulièrement et fréquemment, je me retrouve à accueillir des gens, des parents qui m'emmènent des mineurs qui veulent se faire tatouer sur les parties visibles du corps parce que l'enfant ou le mineur a besoin de se créer peut-être une identité, etc. à un moment donné. Et c'est moi qui me retrouve à devoir faire le méchant loup et rappeler que, bah non, ouais. Ça va pas être possible de tatouer un mineur sur un avant-bras. On a une législation qui est très spéciale là-dessus parce qu'elle nous permet de tatouer les mineurs en France. Ce qui horrifie tous nos collègues européens, tous les autres pays européens, c'est impensable pour eux qu'on puisse
et
le faire.
Et pour cause, à 16 ans, est-ce qu'on a la maturité nécessaire pour avoir conscience de ce que ça implique d'être tatoué?
C'est pas évident. Ça reste vraiment des cas par cas. Il y a des fois où j'ai eu un ado de 16 qui avait perdu son père et qui s'est fait un petit tatouage sur l'épaule pour se rappeler ce souvenir-là, et ça fait partie de son processus de deuil, et je pense pas que ce tatou, il le regrette un jour. Mais après, c'est un tatouage simplement de consommation, parce qu'une star a le même, ou là c'est un peu ridicule et ça devient too much. C'est là où il y a c'est du cas par cas. On veut pas dire non d'emblée, parce que sinon on renvoie ces jeunes vers des mauvais trucs, où ça va mal se passer, où on n'iront pas non. Mais
Anne Dehé, c'est devenu un bien de consommation de masse, le tatouage?
Oui, bien sûr, et c'est un très très gros problème.
Vous le déplorez.
Face à la, mmh. En fait, il faut revenir un petit peu à l'histoire du tatouage. Je suis là pour ça. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Mmh. À partir du début du 19e siècle, tout ce qu'on est en train nous de vivre aujourd'hui, les gens ont commencé à le vivre à l'aune de l'explosion de la presse, aussi bien aux États-Unis, enfin en Amérique. Qu'en Europe, il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, une fascination exercée par le tatouage sur ceux qui le regardent, que ce soit ceux qui le portent ou ceux qui refusent de le porter et ne le porteront jamais. Et donc, il y a quoi qu'il arrive intrinsèquement au tatouage, toutes ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on se tatoue? Comment est-ce qu'on se tatoue? Par qui est-ce qu'on se tatoue? Combien ça coûte? Est-ce qu'on va le supporter jusqu'à la fin de notre vie? Tout ça, ce sont des questions qui sont intrinsèques à la façon dont on va porter un tatouage, mais aussi à la façon dont on va le regarder. Après, la question majeure, de mon point de vue, et ce pourquoi Tatoueur Tatoué a été créé...
L'exposition.
C'est que... L'exposition, c'est que devant la médiatisation à outrance qu'a subi le tatouage via d'abord la musique et ensuite le football, la publicité,
la télévision, vous voulez,
et surtout Internet, il était urgent, impératif, d'expliquer à qui voulait bien prêter attention à l'exposition que le tatouage n'est pas simplement ce qu'on regarde, mais que le tatouage est un énorme courant très profond, artistique, qui puise ses sources de la même manière que le dessin est né, que la peinture est née, que la sculpture est née, et que cette histoire abrite non seulement des réflexes qui sont cycliques, mais aussi des grands artistes et pionniers. Donc là, on peut toujours décider de juger qui va se faire tatouer, comment on le tatoue, et qu'est-ce que ça va devenir.
Gilles Wetsch, vous voulez réagir à ce que
tu dis? Oui, mais ça change aussi le rapport au corps. Depuis à peu près une cinquantaine d'années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, on vit plus longtemps. Le corps est un capital personnel important. Quand on va chercher du travail, vous savez que vous êtes jugé sur votre apparence, donc sur votre corps. On regarde votre CV après, on regarde d'abord l'apparence que vous avez. Et ce corps, il faut le maintenir le plus longtemps possible, le plus jeune et le plus en forme. Alors le tatouage est intéressant parce qu'effectivement, on change un peu le statut du corps, c'est-à-dire qu'il devient aussi un objet à la fois esthétique et voire de collection pour ceux qui vont le prendre en photo. Je parle pas de ceux qui récupèrent la peau, ça c'est une autre histoire.
On va en parler tout à l'heure.
Mais effectivement, ça a changé le rapport qu'on peut avoir avec le corps. Et du coup, ce corps est embelli, il devient un objet esthétique, et de ce fait, ça change sa nature. Change complètement sa nature.
Anne Dehé, une réaction?
Mais c'est la difficulté de la popularité. d'une culture qui d'abord intéresse et n'est animée que par des passionnés, des amoureux et des gens qui donneraient tout et qui vont mourir avec. Donc la difficulté de la popularité offre cette pratique à des gens qui n'appartiennent pas en fait à ce milieu.
Oui, mais on a l'impression que vous
et
décrivez
quoi qu'il arrive. Ouais. Et qui, quoi qu'il arrive, vont traverser cette pratique en touriste. Le tatouage est quelque chose de sérieux, qui est inscrit dans une très très grande histoire, ouais. Et qui a un vocabulaire qui véhicule des valeurs, de grandes valeurs, des valeurs de respect, des valeurs d'échange, des valeurs de liberté. Il est très important, ça commence à n'importe quel âge.
Il est très important de
prendre possession de son
corps. Je vous coupe et je vous pose une question volontairement provoque, mais il n'y a pas une forme de snobisme dans la critique faite à la banalisation du tatouage. Après tout, n'importe qui, tout le monde devrait avoir le droit de se tatouer sans être un puriste, Loïc Gignot.
Après, on est tous rentrés tout blanc dans un salon de tatou un jour. Hein, il faut bien commencer. Il y a certainement des gens qui vont ouvrir la porte, qui vont la refermer consciencieusement derrière eux et avancer dans ce chemin. Et d'autres, comme dans plein de choses, qui vont venir un peu et puis partir vers d'autres trucs où ils ne feront que croiser le tatouage dans leur vie. Mais bien sûr, ils garderont ce tatouage au travers d'eux toute leur vie.
Gilles Boyle, je vous voyais grimacer un peu pendant que Anne Dehé parlait de cette banalisation du tatouage. Le déplorer ?
Je ne sais pas si on a le déplorer ou pas. On a à le constater, à s'interroger sur le sens de celui-ci. Qu'est-ce que ça apporte justement aux individus de pouvoir embellir leur corps de cette manière-là et y apporter un certain nombre de symboles ? Vous savez, le tatouage au 19e siècle, au 18e, ça a commencé, c'était les bagnards qui se tatouaient. Mmh. Les matelots, les légionnaires,
des marginaux.
Les prostituées, les
aristocrates anglais aussi.
Certains aristocrates, c'est aussi des marginaux.
Tout à fait.
C'est aussi un signe de noblesse, le tatouage.
Oui, mais c'était le grand tatouage caché.
Ouais, le costume.
Alors que les autres montraient le tatouage, les prostituées en particulier. Il y a eu des études qui ont été faites assez nombreuses là-dessus.
Anne Dehé, je crois que vous n'êtes pas d'accord du tout.
Non, mais je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes angles d'attaque. Sur le plateau, vous avez quelqu'un qui n'est qu'observateur. Et le tatoueur tatoué a existé justement pour donner la parole à la communauté et délivrer un message.
Il faut être tatoué pour avoir un avis et une analyse du tatouage. Il faut être tatoué nécessairement. Terminer, puis répondez à ma question après.
C'est pas du tout de ça dont je parle. Après, il y a un pratiquant autour de la table, et après, moi aussi, je suis observatrice, mais pratiquante aussi. Donc, moi, dans le rôle en fait que je me suis alloué, c'est un rôle d'observatrice, et surtout pas, je me pose surtout pas en juge. Et le problème en fait, et ce pourquoi j'ai écrit Tatoueur tatoué, c'est d'expliquer en fait que l'objet tatouage n'a jamais été considéré de l'intérieur et considéré comme un véritable objet de recherche.
Gilles Bouetch.
Je comprends pas pourquoi vous dites que ça n'a jamais été considéré comme objet de recherche. Il y a eu plein d'ouvrages qui ont été faits sur le tatouage, qui sont justement intéressés aux dimensions sociologiques, aux dimensions anthropologiques. C'est pas un sujet nouveau, hein. C'est pas ce qui est un petit peu nouveau, c'est effectivement la mode que ça peut être aujourd'hui et la prise en possession par de plus en plus de gens. Donc ça, c'est un problème qui est intéressant. Mais le tatouage en soi, c'est ça fait très longtemps qu'on l'étudie.
Ça fait très longtemps qu'on l'étudie, mais les techniques ont évolué, les artistes ont évolué, on se réapproprie plein de choses, le monde du tatou explose au travers de ces styles, etc. Et après, ce qu'on rencontre, je pense que c'est plus des phénomènes de mode dans le tatouage, où donc les gens vont consommer, se mettre à consommer des choses, où c'est assez surprenant qu'on ait un effet de masse qui se retrouve dans des dessins identitaires. Bon, après, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé en Polynésie aussi à l'époque, et c'est peut-être comme ça, on sait pas exactement. Oui, mais ça dépend parce que
souvent, je suis pas entièrement d'accord.
Mais souvent, un signe infini symbolise quelque chose, ils vont écrire le nom de leurs enfants, ils vont écrire des choses qui correspondent, où ils se réidentifient dedans. Même si c'est des petites choses très symboliques et très graphiques, c'est pas pour ça que ça veut rien dire pour eux.
Mais disons qu'ici, même si on a évidemment une dimension personnelle, le décès de son père, etc., qui peuvent figurer sur la peau, en général, on recherche plutôt des choses un petit peu esthétiques. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs, dans la mesure où dans l'ailleurs, on essaye de raconter à partir du tatouage qui on est, son histoire, son chemin.
Après, la mise en œuvre esthétique est faite par le tatoueur dans le cas de tatouages polynésiens, par exemple.
Ici, on peut choisir sur catalogue.
Anne de Haye, qui décide si un tatouage est beau ou moche ?
C'est toujours la même question. En fait, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, mon positionnement, c'est d'observer le tatouage et de l'expliquer, de l'analyser, de le synthétiser comme un grand courant artistique. Donc moi, je n'ai pas... Je m'inflige l'idée de ne pas juger les gens qui se tatouent et les gens qui tatouent. Donc ça, c'est primordial. Le tatouage, c'est la liberté. C'est un véhicule de liberté. Il a toujours existé en ces termes. Donc c'est une expression de soi-même. Et ce qui est toujours exclu en fait de souvent de tous les débats auxquels j'assiste, y compris le vôtre, c'est la valeur de la singularité et de la circularité de la relation entre le tatoueur et le tatoué. Donc il y a si vous voulez il y a une grande signification en fait dans cette relation entre le tatoueur et le tatoué, et se passe ce qui s'y passe. La problématique d'aujourd'hui, qui est une problématique médiatique et donc offerte à tous, c'est que comme toutes les sous-cultures ou en tout cas les cultures alternatives au départ, plus elles sont popularisées, plus elles perdent en sens. Originellement,
expliquez en quoi c'est une perte de sens. On ne comprend pas bien.
La popularisation du tatouage a transformé le tatouage en un acte qui peut devenir uniquement un acte de consommation. Et c'est là où se situe tout le souci. C'est là où se situe le fait qu'il y a un boom des tatoueurs, y compris des gens qui tatouent très mal, et qui font beaucoup d'ombre aux gens
c'est quoi un tatoueur qui tatoue mal ? C'est quoi un mauvais tatouage, un tatouage mal fait ?
Ouais. Vous avez un très bon tatoueur là autour de la table.
C'est
à lui de le dire, parce que je sais qu'on pense la même chose.
Loïc Gignoux, est-ce qu'il y a un bon tatoueur et un mauvais tatoueur, comme il y a un bon chasseur et un mauvais chasseur ?
Allez, je vous donne un exemple. J'étais à Katmandou juste avant le dernier gros tremblement de terre, et on recensait sur Katmandou, je sais pas, 40, 50 centres de tatou. Alors que sur Katmandou, il y a 3 ou 4 bons tatoueurs. Les autres, la Katmandou, on gagne 30 $ par mois. Donc, il suffit que le centre tatou en question, il arrive à cartonner 2 touristes par semaine, ça lui fait déjà au minimum 300-400 $. Donc, c'est un problème économique dans ces-là et qui enclenche vraiment à faire, il y a vraiment des trucs horribles. Horribles.
C'est-à-dire bâclé,
on parle même pas de l'hygiène qui est absolument aléatoire.
Oui, on peut bâcler parce que
c'est comme des armes, c'est des pistolets, enfin les guns et les tattoo machines, les dermographes comme disait Monsieur Bruno. Il y a une aiguille qui bouge au bout, suivant le volume où c'est mis, ça peut être des armes qui détruisent la peau. Enfin, j'ai vu des atrocités.
On peut parler d'une mode que j'ai découvert. Moi, je connaissais pas, qui s'appelle le tatouage flash. C'est une forme de tatouage un peu low cost. On va faire un petit tatouage on peut le faire dans un bar ou dans un restaurant. C'est vrai ça ?
Alors ça, malheureusement, on voit de plus en plus de petits stands de tatou se mettre dans les bars, etc. J'ai l'impression qu'on voit un gros retour en arrière des années 80. Ça, c'est normalement pas possible. C'est complètement hors la loi française, puisqu'un salon de tatou doit être déclaré en préfecture. On doit répondre à des caractéristiques de salle pour tatouer, isolé, avec lave-main, avec incinération, donc récupération des dasseries, donc des poubelles contaminées, des choses qui sont souillées de sang. Hein, il faut pas oublier qu'un endroit où on se tatoue, il y a plusieurs personnes qui vont se faire tatouer dans la même journée, donc il y a forcément un problème de contamination croisée qui n'est pas dénué de sens. Hein, dans le temps, il y a quand même des gros problèmes dans le tatouage mécanique, dans le passé. On a beaucoup bossé, on a décrit la procédure, on a décrit tout ce qu'il fallait faire pour qu'entre deux personnes, il n'y ait pas de problème de contamination croisée. C'est très important. Et ça, c'est primordial. Après,
Il y a un auditeur qui nous écrit, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là, et qui nous demande si les réseaux sociaux ont modifié le mode de consommation du tatouage, Gilles Boetsch. Est-ce qu'Internet, la télévision, les médias de masse a effectivement contribué à cette popularisation du tatouage ?
C'est vrai que ça fait, entre guillemets, une sorte de publicité, ça donne une information. Mais il n'y a qu'à regarder, par exemple, le nombre de revues qui sont consacrées au tatouage. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas.
Il y a une business tattoo industrie qui existe à l'heure actuelle, qui n'existait pas dans le temps.
Absolument,
ça, c'est certain que
absolument.
Le tatouage représente à l'échelle mondiale peut-être des milliards de dollars ou d'euros dans l'année. Après, il y a tout le pigment, il y a tous les consommables utilisés, il y a tous les chiffres d'affaires engendrés, il y a toute cette TVA.
Instagram, etc. Je parle d'Instagram parce que c'est devenu une vitrine aujourd'hui pour les tatoueurs. Ouais, est-ce que c'est une bonne nouvelle
On était déjà avec MySpace à l'époque. Hein, je sais pas si on se rappelle de MySpace, mais j'ai encore ma page qui traîne quelque part. Et oui, dès qu'on a eu ça, on s'en est emparé parce que c'était très pratique. Et par contre, maintenant, c'est un peu l'effet boule de neige et l'effet inverse du truc. C'est-à-dire qu'il y a des très bons tatoueurs, très, très communicants, qui n'ont pas forcément de technique, mais qui vont répondre en plus et surfer sur ce que veulent les gens. Donc des tatouages trop petits, qui vont mal vieillir, qui vont machin, mais ça répond à une demande et ça marche. Et ils se retrouvent souvent en haut des réseaux sociaux, etc. Alors que la technique, quand tu vois des tatoueurs qui se font chier pendant 15 ans pour faire des portraits ou taper de la couleur qui déchire, et qu'on voit qu'un mec qui fait des micro-lignes un peu toutes tremblantes avec des petits dessins dégueulasses se retrouve bien plus avec bien plus de likes.
De visibilité.
De visibilité. Mmh. Bon, c'est notre société qui est comme ça maintenant. C'est
Internet. C'est le point d'Internet qui est énorme.
Pas forcément la qualité qui va compter, mais cette commercialisation, certes.
Anne de Haye, Internet, c'est le coupable, le grand coupable. Instagram.
Le grand coupable.
C'est souvent désigné comme le coupable de cette banalisation avec les émissions de télé-réalité sur le tatouage. Elles sont de plus en plus nombreuses.
C'est un outil qui participe et qui continue de nourrir et qui alimente chaque seconde. En fait, ce type de consommation rapide qui ne convient pas du tout au tatouage, qui est une marque faite pour rester jusqu'à sa mort. Mm. Mais c'est une réalité qu'il y a des tatoueurs qui ont travaillé très dur plusieurs dizaines d'années et qui ne sont connus en fait que du milieu, mais qui ne sont pas connus du grand public. Oui. En fait, quand vous cherchez un tatoueur, quand vous voulez vous faire tatouer, d'abord réfléchissez bien à ce que vous voulez vous faire tatouer, et ensuite renseignez-vous et pas sur Internet. Allez voir, allez dans des shops, allez discuter avec les tatoueurs, allez discuter avec les tatoués, rencontrer les gens, échanger, discuter. Vous allez rencontrer ou entendre parler d'un tatoueur qui expérimente plus tel style de tatouage, qui est beaucoup plus fort dans ces noirs-là, qui est très fort dans ces ombrages-là. Oui. Si vous voulez du gris, allez chercher. Allez, il faut commencer à se poser une vraiment des questions artistiques au niveau du tatouage. Simplement le fait d'avoir...
Oui, j'ai une question pour tous les trois. Est-ce qu'il faudrait songer à imposer un délai de réflexion pour les tatouages, comme ça existe après tout pour la chirurgie esthétique, Gilles Bouetch?
Bon, j'ai pas trop d'avis là-dessus.
Loïc Géniaud, 15 jours avant de décider de se faire tatouer une paire de pizzas sur l'épaule?
Si c'est une partie non visible du corps, je pense que le côté flash peut encore être appliqué, mais après sur les parties visibles, ça c'est certain. Après, quand c'est des grosses pièces, de toute manière, où il y a quand même une implication de la personne plus longue, hein, un bras, ça va se faire en 20, 30 heures de travail, donc c'est plusieurs séances, c'est un impact financier, un impact douleur, temps de cicatrisation, un impact sur la vie. Là, de toute manière, c'est jamais instantané non plus. Donc, après, le flash, si on regarde bien tous les salons de tatou qu'on avait autour des bases américaines, des bases des militaires, tout ça, c'est eux qui ont commencé à faire des flashs. Et là, le tatouage moderne se réapproprie par on est passé de la mode du tribal, du néo-tribal. Après, on est monté, on a fait, le polynésien est arrivé, ça a tout cartonné, etc. On avance. Et là, après, on est passé sur la mode du old school où les flashs sont revenus naturellement puisque c'est tout cet univers qui est très, très codifié à la base. Qu'il est beaucoup moins maintenant.
Il est midi 39 sur France Inter, on écoute Steppenwolf, Born to be Wild.
With the wind and the feeling that I'm under, yeah, darling, go make it happen. Take the world in
got the motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high.
C'était Steppenwolf, Born to be Wild. La programmation musicale du débat de midi est signée Elsa Béranger.
Le débat du midi, Nadia Dam sur France Inter.
Loïc Gignoux, est-ce que si le tatouage se démocratise, c'est lié au fait que la technologie a évolué et qu'aujourd'hui les gens imaginent que c'est facile et pas cher et pas douloureux de se faire détatouer? Est-ce que c'est vrai qu'on peut enlever un tatouage beaucoup plus facilement qu'il y a 20-30 ans?
Alors, je ne suis pas dermato, donc je peux vous répondre de ce que du ressenti que j'ai, puisque je fais partie d'une association européenne qui s'appelle l'ECTP, où on se réunit tous les 2 ans depuis 6 ans, où les fabricants d'encre sont là, les fabricants de lasers sont là, les dermatos qui passent le laser sont pas tous là, mais il y en a certains qui représentent la profession. Et donc, moi, si j'ai bien compris, on n'enlève rien. On casse la particule, on la rend plus petite, elle reste soit sous-cutanée ou est évacuée par les voies naturelles du corps, le foie, les reins, les ganglions. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut dire qu'on enlève le tatouage ou pas? On le déplace pour moi du corps, dans la surface de la peau, vers un autre endroit du corps. À la mesure où on expliquerait ça comme ça, là je suis d'accord. Mais pour moi, on n'enlève aucun tatouage. Dès que c'est une personne, par exemple, qui a un grain de peau un petit peu coloré, c'est-à-dire qui n'est pas tout blanc, eh ben sa mélanine va partir avec le laser aussi, et on va plus avoir de, on va avoir le tatouage en décalé blanc. Donc c'est non, pour l'instant, le tatouage ne s'enlève pas complètement. Il faut vraiment penser qu'il doit être réfléchi et assumé jusqu'à la fin de nos jours pour ensuite le réaliser.
Gilles Watch, le tatouage, c'est pour la vie?
Comme disait Paul Valéry, la peau, c'est ce qu'il y a de plus profond. Mmh. Le tatouage, c'est effectivement pour la vie, mais alors là, ça pose aussi d'autres types de problèmes, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu des tatouages qu'ils ne voulaient pas avoir. Je pense effectivement des juifs dans les camps de concentration, entre autres. Et là, c'était des tatouages subis. Mmh. Alors que aujourd'hui, on parle des tatouages choisis. C'est-à-dire ceux que les gens ont envie d'avoir. Donc il faut aussi faire cette distinction qui est quand même relativement importante. Il y a des gens qui recevaient aussi des tatouages comme marque de l'infamie. Ce n'est pas des tatouages qu'ils choisissaient, c'est des tatouages qu'ils subissaient.
Fanny, auditrice de France Inter, nous demande comment ça se passe avec la copie d'œuvre et la loi plagiat sur le tatouage. Ça tombe bien, on va passer un coup de fil à Yann Bazir, maître de conférence en droit à Strasbourg, futur directeur du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. Bonjour Yann Bazir.
Bonjour.
Vous avez participé en juin dernier au premier colloque droit et tatouage, ça s'est tenu à Limoges. Qu'est-ce que le droit a à voir là-dedans?
Alors qu'est-ce que le droit a à voir là-dedans? Ça a été évoqué tout à l'heure, le tatouage, soi-disant, ne serait pas un objet de recherche. En tout cas, c'est un objet de recherche juridique. Me concernant, la question qui se pose, c'est évidemment qui est titulaire des droits d'auteur, notamment sur un tatouage. Puisque on peut considérer que le tatouage est une œuvre de l'esprit. À partir de là, se pose la question de la titularité, de la protection et de la mise en œuvre de ces droits. Et on a effectivement quelques contentieux, très peu, qui existent en France. On en a un.
Il y a une affaire. Il y a une affaire en particulier, ouais.
Oui, en France, vous avez eu une affaire à la fin des années 90 à propos de Johnny Hallyday, du tatouage d'aigle qu'il a sur son bras droit. Vous avez aux États-Unis une affaire à propos du design tribal de Mike Tyson qui avait été repris dans le film Very Bad Trip 2. Et puis récemment, vous avez aussi quelques questions qui se sont posées par rapport à la modélisation de joueurs de basket qui ont des tatouages. Et donc les tatouages ont été reproduits dans les jeux vidéo. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette reproduction est licite? Est-ce qu'elle est libre de droit? Et évidemment, voilà, vous avez quelques contentieux comme
ça. Comment ça a été tranché dans les différentes affaires?
Alors, pour Very Bad Trip et la modélisation des joueurs de basket, ça a été transigé. Après, on peut quand même apporter des réponses juridiques sans passer par ces questions de transaction. Dans l'affaire e-sport, donc la modélisation des joueurs de basket, on peut considérer en fait que la reproduction, elle va de pair avec le joueur. Et en fait, on peut considérer finalement que le tatouage s'apparente à une forme de droit de la personnalité, c'est-à-dire qu'elle appartient à la personne, elle est comme son nom, comme son honneur, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a autour de la personnalité d'une personne physique. Ouais. Et donc la reproduction, finalement, elle est faite de manière incidente. Et donc là, ça ne pose pas de difficulté. Par contre, s'agissant de l'affaire Johnny Hallyday, là, c'était un peu différent. C'était pour les 50 ans donc du chanteur.
C'est avec la maison de disques, le contentieux, c'est ça?
Exactement. C'est la maison de disques contre le tatoueur. Et en fait, la maison de disques, dans le cadre des 50 ans de Johnny Hallyday, a utilisé le tatouage comme élément de communication autour de tous les produits dérivés. Donc sur les CD, vous aviez le tatouage qui était reproduit, sur des vêtements, sur énormément de produits dérivés. Et évidemment, le tatoueur s'est ému de cette reproduction. Il a invoqué son droit d'auteur et il l'a emporté. Alors, la société Polygram a invoqué l'argument justement des droits de la personnalité. Elle a expliqué que finalement, à partir du moment où c'était sur le bras de Johnny Hallyday, on pouvait l'utiliser librement si Johnny Hallyday était d'accord. Et en fait, la cour d'appel a entendu cet argument, elle a dit oui, effectivement, c'est quelque chose qui est parfaitement valable, sauf que là, vous ne reproduisez pas Johnny Hallyday dans sa globalité, vous reproduisez uniquement le tatouage. Et donc, à partir de là, c'est une reproduction de l'œuvre du tatoueur, et donc une atteinte. Et sauf erreur de ma part, Polygram avait été condamné à 250 000 francs à l'époque de dommages et intérêts, donc ce qui équivaut à 38 000 euros.
Il y a une histoire un peu particulière qui concerne un artiste et un collectionneur, c'est Tim Steiner, c'est un Suisse qui est tatoué, qui a été acheté en 2008 par le collectionneur allemand Rick Greiking pour 150 000 euros. Et d'après le contrat qui les lie, Tim doit mettre son tatouage et donc sa personne à disposition du collectionneur 3 fois par an. À sa mort, le collectionneur deviendra propriétaire de l'œuvre, ça veut dire qu'il aura le droit de dépecer cet homme.
Oui,
qu'est-ce que c'est que cette histoire et quels sont les fondements légaux d'une histoire comme celle-là?
Alors bon, comme vous l'avez dit, c'est en Suisse. Je pense qu'on doit distinguer deux choses. On peut distinguer effectivement le fait qu'il soit exposé de son vivant. Donc là, pourquoi pas finalement, quand vous avez une photo de quelqu'un tatoué qui apparaît dans une exposition, ça relève peu ou prou de la même chose, sans doute. Par contre, le fait qu'il soit dépecé par la suite, ça c'est quelque chose qui ne serait vraisemblablement pas valable. En France, on a déjà eu du contentieux par rapport à cela, par rapport à l'exposition de cadavres dans un contexte commercial. Et donc là, on aurait évidemment une atteinte à la dignité de la personne.
Merci Yann Bazir pour toutes ces précisions. Loïc Gignot, bonne journée. Loïc Gignot, il y a une bataille juridique qui a été menée par le syndicat des tatoueurs pour faire reconnaître le tatouage comme une œuvre d'art par l'administration fiscale. Ça veut dire le tatouage, ça doit être une œuvre d'art et reconnue comme telle?
C'est à mon avis un artisanat d'art, c'est effectivement le cas, puisqu'en fait on crée un modèle pour la personne où on va reproduire des fois des choses qu'on nous le demande. Donc c'est deux choses un petit peu différentes. Après, quand je prends mon feutre, que je dessine sur un gars, que je prends ma machine, que je le tatoue, je suis bien dans la création, je suis pas dans la reproduction. Après, il y a des fois des choses plus petites, ou même un portrait, on va faire 3 traits, et donc prendre du carbone derrière pour avoir des éléments de repérage, parce que la peau est un élément souple, et non comme une feuille de papier fixe, donc on a besoin de prévoir un peu où on va, mais à partir de là, on est dans la création, ça c'est certain. Et on voudrait bien qu'il y ait une reconnaissance de ça pour aller vers une TVA à moindre, en fait.
Jules Wetsch.
Parce que là, c'est 20% de TVA. Et du coup, ça nous rend moins compétitifs, parce qu'on a quand même on subit une concurrence déloyale des tatoueurs d'appartements, etc., qui n'ont pas de contrôle, qui n'ont pas d'emmerde, qui n'ont pas d'investissement, et qui, en plus, font de la merde derrière.
Anne Dehaye, est-ce que la profession du tatouage doit être davantage encadrée au niveau français, peut-être même au niveau européen?
Non. Je pense pas du tout. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, comme le tatouage évolue de façon cyclique, vous avez toujours de la répression, ensuite un éclat de liberté, après des explosions.
Est-ce que des réglementations mènent forcément à...
Oui, oui. Je vous écoute. Je suis pas la bonne personne en fait pour répondre à ça. Je n'ai pas de point de vue en fait là-dessus. J'ai besoin de réfuter parce qu'on m'a couper la parole, en fait. Je n'ai jamais dit que le tatouage n'avait jamais été un objet de recherche. Ce que je voulais dire, c'est que le tatouage tel que nous, nous l'avons observé et exposé au musée du Quai Branly, est une vision totalement nouvelle et exploratoire de son aura artistique. Hein, parce que ça a été repris deux fois.
Ouais, et vous mentionnez donc Gilles Boitsch. Gilles Boitsch, une réaction ?
Non, mais je suis content qu'effectivement, ils ont reconnaissance que le tatouage est un objet d'étude depuis fort longtemps. Mais moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'aspect création, parce que ça, c'est intéressant. Est-ce que, finalement, quand on fait un tatouage, on peut copier quelque chose qui existe déjà ? C'est la même chose en peinture. Hein. Ou est-ce qu'on peut effectivement créer... quelque chose d'original.
Certaines études, on va servir d'un petit bout de là, comme on s'aperçoit que plein de peintres se sont copiés dans le... Bien sûr. On a fait... Après, certaines études sont tellement bien faites que je n'ai pas assez cette prétention d'aller refaire les mains de Michel-Ange. Vous voyez, il y a des choses où simplement, si j'ai déjà la prétention de pouvoir les reproduire avec mes aiguilles et mes machines sur la peau, c'est déjà pas si mal. Pour certaines choses qui sont un peu des piédestals, je dirais, de l'art. Et après, on a aussi notre technique et nos savoirs et l'écoute de la personne qui veut se faire tatouer, l'interprétation et l'emmener vers...
Mais tous les tatoueurs ne sont pas forcément des créateurs.
Non, pas tous, malheureusement.
Ce qui a été dit tout à l'heure, et c'est effectivement, il y a différents niveaux de tatoueurs.
Il y a des tatoueurs qui vont juste se contenter de faire tatouage monétaire. Après, l'argent, moi ça fait 25 ans que je fais ce métier, je suis perceur tatoueur, c'est une passion, j'ai commencé ce métier par passion. J'ai très bien gagné ma vie avec, mais j'ai travaillé des jours, des heures, un temps, c'était énorme. Et c'est pas le leitmotiv du truc, n'a jamais été de gagner de l'argent, mais de tatouer mieux, de tatouer encore mieux.
Donc de créer.
De créer. Ouais, c'est ça qui m'a fait vibrer, c'est pas le reste, c'est pas grave.
Elle a dit tatouage au compteur, on écoute Lana Del Rey, Doing Time.
Summertime, and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC.
Midi 55, vous écoutez le débat de midi sur France Inter. J'ai une dernière question pour mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
C'est la question rituelle du débat de midi. J'aime demander à mes invités à quelle personnalité vivante ou disparue elle aimerait débattre, Loïc Gignoux.
J'hésitais entre deux. Je pensais vraiment très fort à Jacques Brel, parce que je suis belge et puis qu'il a quand même toujours eu des visions. Il était tatoué lui-même. Ou sinon, Fakir Mouzara, qui nous a quittés il y a une petite année, à qui qu'on a pu mettre en scène au Musée de l'Homme actuellement, qui est sur une exposition sur le piercing, où on parle du piercing, de Néandertal éventuellement et de Cro-Magnon, où on a bossé avec plusieurs ethnologues. C'est une petite expo qui est gratuite en plus au Musée de l'Homme encore pendant 6 mois. Donc n'hésitez pas à aller le voir et vous verrez des très belles vidéos de Fakir.
Votre réponse, N2E ?
En fait, moi, j'aurais bien aimé croiser un des guerriers qui a été retrouvé sous forme de momie en Asie centrale, un Pazirik dont Saint-Pétersbourg en fait conserve les peaux tatouées, absolument magnifiques. Et en fait, à Moscou, là, au musée Pouchkine, on va réussir à déplacer ces peaux pour pouvoir les montrer à Moscou. C'est absolument formidable parce qu'on n'avait pas réussi à le faire pour Paris. Et ce sont des grands objets à venir voir, vraiment. Déplacez-vous à Moscou quand on ouvrira, rien que pour voir ces artefacts-là qui sont invisibles autrement. Voilà.
Gilles Bouetch.
Christophe Colomb ou Marco Polo, mais j'aurais préféré Marco Polo, parce que vraiment, il a raconté un monde absolument énorme, magique, gigantesque.
Merci à tous les trois. Le débat de midi sur le tatouage est terminé. Lundi, on se demandera, vaste question, si on peut acheter le féminisme. Vous pouvez déjà commencer à réagir à la page du débat de midi sur franceinter.fr ou sur Twitter, hashtag le débat de midi.